France Culture.
Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi?
Bonjour, 8h30 sur France Culture, Jean-Luc Gadreau avec vous pour Soleil, le rendez-vous protestant, une émission qui vous est proposée par la Fédération protestante de France. Nous sommes le 9 mars 2025 et si je vous donne cette date précisément, c'est que ce dimanche se trouve être cette année le premier de la période du carême, ce temps liturgique chrétien qui va de ce que l'on appelle le mercredi des cendres jusqu'au samedi saint, veille de Pâques, soit environ 6 semaines. Et comme chaque année, sur France Culture, à 16h, pendant ces 6 dimanches, je vous donne rendez-vous pour Solae, le carême protestant, avec pour cette année la pasteur Marie-Pierre Courneau, qui se trouve justement être mon invitée aussi ce matin pour nous en parler. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour.
Alors on va passer de longues semaines ensemble. Peut-être quelques mots de présentation. Vous êtes pasteur de l'église protestante unie à Paris, dans le 14e arrondissement, la paroisse de Montparnasse-Plaisance. D'ailleurs, j'avais eu l'occasion de vous recevoir ici même, dans le studio de Solae, en juillet dernier, pour un entretien autour d'une question alors très différente de celle qui portera le sujet de Ruth. Quoique. Il y a des choses peut-être qui peuvent s'en rapprocher. C'était abolir la violence, un fantasme ou une espérance. Et vous revenez donc ce matin pour nous présenter le menu, si j'ose le dire ainsi, pour ce temps de carême protestant sur France Culture. Une première question avant d'évoquer tout cela. Le carême dans le protestantisme, ça n'a pas tout à fait la même importance que dans le catholicisme. Il y a des us et coutumes très divers, d'ailleurs, en fonction des familles d'église. Mais même plus encore, c'est peut-être peut-on dire une affaire quasiment individuelle? Et vous, justement, personnellement, et puis peut-être aussi en paroisse, qu'est-ce que le carême représente? Quelle place et quelle forme lui donnez-vous?
Moi, j'aime les rites. Je crois que ça structure la vie, ça structure le temps et la foi, et donc ça aide. Bien sûr, il ne faut pas que ça soit rigide, sclérosant, hein, il faut que chacun les habite, ces rites leur donnent du sens. Et je regrette un peu que le protestantisme, en tout cas un certain protestantisme, ait fait la chasse aux rites. Je crois que les rites, c'est particulièrement important, en particulier quand on touche à des sujets un peu complexes et mystérieux, comme par exemple la mort et la résurrection du Christ.
Oui, ça n'est pas rien.
Voilà, il faut, dans ces cas-là, je trouve, ajouter une dimension aux mots pour pouvoir donner du sens à ces deux événements qui restent assez incompréhensibles. Et voilà, et en pratique, il m'est arrivé de participer à des célébrations spécifiques du carême dans d'autres églises que la mienne.
Avant de nous parler du sujet que vous nous proposerez de travailler, je voulais encore vous demander quelle a été votre réflexion quand il vous a été proposé d'animer ce carême protestant. Qu'est-ce qui vous semblait bon, utile peut-être même d'un point de vue thématique, théologique, spiritualité, enfin voilà, qu'est-ce qui était bon de traiter, d'aborder, comment ce choix que vous avez fait a été dirigé dans votre réflexion personnelle?
Ça m'a paru une opportunité fantastique de pouvoir parler du carême à un large public, à des personnes qui ne sont pas forcément au fait de toutes les interprétations possibles de l'événement de Pâques. Et je me suis dit que Christ a annoncé l'universalisation de l'Alliance de Dieu et que c'était ce message-là que j'avais envie de porter. J'avais envie de dire que ce qu'annonce le Christ le dépasse et qu'il nous faut donc, nous, dépasser une vision christique de Pâques et aller chercher ailleurs que dans le Nouveau Testament de quoi nourrir notre réflexion sur Pâques.
Et donc, vous êtes allé chercher ailleurs, dans un vieux récit, un vieux texte, ne faisons pas durer le suspense. Et c'est une femme, une héroïne biblique que vous avez en fait choisie. Elle a la particularité d'avoir un livre tout entier dans le Premier Testament, certes court, mais qui porte son nom et qui raconte son histoire. D'ailleurs, je crois que dans le carême, vous évoquerez l'importance du nom donné. C'est Ruth, c'est celle que vous proposez de voir comme la pourvoyeuse de vie, une histoire que vous affectionnez, donc j'imagine, Marie-Pierre Courneau.
Oui, tout à fait. Alors d'abord, moi j'aime les histoires. Et j'aime les histoires simples et courtes. Des histoires abordables par tout le monde.
Un peu comme des nouvelles.
Un peu comme des nouvelles, voilà. Et donc c'est le cas du livre de Ruth. C'est un livre court et simple.
Quatre chapitres.
Quatre petits chapitres. Mais j'aime aussi les histoires qu'on peut s'approprier. Et moi, j'ai découvert le livre de Ruth à partir du texte hébreu. C'est la langue dans laquelle le livre a été écrit. Et ça m'a donné accès à tout le monde de l'Ancien Testament, qui est tellement riche, tellement varié. Cette petite histoire toute simple a été pour moi une porte vers un monde sans fin et passionnant.
Alors cet après-midi, nous commencerons avec une forme d'introduction à l'histoire et à cette femme. Et nous entrerons concrètement dans le récit biblique de façon chronologique à partir de dimanche prochain. Pour cette introduction, le sous-titre choisi, c'est « Ruth, jamais là où on l'attend ». Alors, sans dévoiler bien sûr vos propos, on invite nos auditeurs à venir écouter à 16h. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette expression ?
Alors, on peut dire qu'il y a plusieurs façons de lire le livre de Ruth. On croit le connaître, ce livre, on croit la connaître, Ruth, mais en fait, on risque d'être un petit peu dérouté, on va dire, de ne pas trouver ce qu'on attendait et d'être emmené tout à fait ailleurs. Pendant ces six épisodes, Ruth va nous prendre par la main et nous faire découvrir peut-être des territoires inconnus. Et elle-même, elle ne va pas du tout ressembler, ou probablement pas, à l'héroïne que l'on croit connaître et à laquelle on s'attendait.
Alors nous allons revenir sur le fond, sur ce qui sera abordé dans ces six rendez-vous, mais peut-être aussi évoquer un autre aspect de ces six émissions, c'est l'aspect musical. Nous serons accompagnés musicalement par un artiste, alors je trouve à titre personnel remarquable, c'est vous qui me l'avez fait découvrir, je vous en remercie d'ailleurs Marie-Pierre. Il s'appelle Alessandro Sgobbio et ce seront des morceaux instrumentaux donc de son album Aphorismi Protestanti qui viendront se mêler à vos propos. Pouvez-vous nous en dire quelques mots d'Alessandro ? Qu'est-ce que vous aimez d'ailleurs, vous, plus particulièrement dans sa musique ?
Alors, je suis d'accord avec vous, c'est un fantastique musicien, un musicien contemporain. Il y a dans sa musique, je trouve, à la fois une grande exigence et une très grande liberté. Et en fait, il me fait penser à Ruth. Lui non plus, il n'est pas tout à fait là où on l'attend. Et quand on écoute sa musique, il nous emmène finalement toujours ailleurs. Il faut accepter de lâcher prise dès les premières notes.
Alors c'est un excellent pianiste, pianiste de jazz notamment, mais qui se promène justement dans différents styles. Je vous propose d'écouter le titre qui sera le fil rouge de ces six carêmes protestants. Alors on écoutera bien sûr d'autres morceaux pendant ces six rendez-vous, mais il y aura ce titre qui conclura chacune de nos émissions. C'est La Rentrée et c'est Alessandro Sgobbio. Thank you. Extrait de l'album Aphorismi Protestanti d'Alessandro Sgobbio, le titre La Rentrée. Alessandro, donc, qui sera avec vous, musicalement en tout cas, pasteur Marie-Pierre Courneau. Nous vous retrouvons sur France Culture tous les dimanches après-midi à 16h pendant tout ce temps de carême, pour Soleil le carême protestant. Une émission d'ailleurs qui se prépare avec la paroisse de l'Annonciation de Paris depuis de longues années. C'est un rendez-vous habituel. Et ça commence donc aujourd'hui et jusqu'au 13 avril inclus pour parler de Ruth, cette pourvoyeuse de vie qui sera celle au cœur de ce cheminement pascal. Marie-Pierre, Ruth, jamais là où on l'attend, donc cet après-midi, on l'a dit, mais ensuite les quatre chapitres vont nous conduire dans la réflexion et on lira d'ailleurs intégralement tout le texte. Plusieurs lecteurs, lectrices se relaieront pour nous lire ce texte. Le 16 mars, la mort comme élan avec le chapitre 1er. Le 26 mars, la rencontre miraculeuse, le chapitre 2. Le 30 mars, la nuit tout est permis, chapitre 3. Le 6 avril, le dernier chapitre, le 4e avec la naissance et l'absence. Et puis, une conclusion, le 13 avril, Ruth nous fait tous et toutes enfants de Dieu, en vous appuyant en plus notamment sur Matthieu 1, les 16 premiers versets, la généalogie, une partie de la généalogie de Jésus. C'est une histoire assez incroyable que celle de Ruth, une histoire faite d'amour, d'aventure, de migration, de peine, de joie. Il y a même des manigances, si je peux me permettre. Je crois que d'ailleurs vous préférez le terme transgression. C'est une vieille histoire finalement qui devient très contemporaine, du moins qui a sans doute des choses à nous dire aujourd'hui encore.
Manigance, c'est pas mal quand
c'est
même.
C'est pas mal.
Oui, je vais y penser. On pourrait dire aussi négociation. Alors, pas au sens commercial du terme, bien sûr, mais au sens peut-être politique. Ruth est tout à fait comme nous. Elle négocie sa vie au jour le jour. Elle négocie son avenir. Elle négocie la vie. Elle négocie la nôtre, on verra. Au milieu de toutes les injonctions, parfois contradictoires, que l'on peut croiser. Et puis aussi au milieu de ses désirs et de ses valeurs, celles qui comptent pour elle. Et ce sont que des choses que nous traversons aussi et que nous avons à renégocier tous les jours.
Alors, il y a aussi l'enjeu de la féminité dans ce livre. Je sais que vous dites que ça n'est pas un livre féministe et que la Bible ne l'est pas. On laisse nos auditeurs découvrir ça dans une de nos émissions. Mais en même temps, il y a quand même des femmes qui sont là principalement dans portant cette histoire.
Oui, c'est une histoire qui est presque entièrement portée par des femmes. Mmh. Tout à fait. Des femmes qui sont en position d'autorité et de pouvoir. C'est pas très fréquent, donc on peut prendre un petit peu de temps pour le mettre en avant et pour l'évoquer.
Et ça vaut la peine. Pour notre rendez-vous avec la parole, le fil rouge de l'émission, je ne pouvais qu'aller piocher dans le livre de Ruth, évidemment. Et alors j'ai choisi un moment clé de l'histoire, avec notamment une parole, une expression de Ruth qui a traversé les temps. Sa formule est même devenue le titre de chanson. Alors, dans les années 60 jusqu'à aujourd'hui, nous allons écoutez l'original, j'allais dire, le texte, le premier chapitre, les versets 16 et 17, et c'est le comédien Thierry Casazian qui nous lit ce morceau de Ruth.
Ne me pousse pas à t'abandonner, à retourner loin de toi, car où tu iras, j'irai. Là où tu passeras la nuit, je passerai la nuit. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et là je serai enseveli. Que Yahvé me maudisse, si ce n'est pas la mort qui nous sépare, toi et moi.
Alors quand je parlais de chansons, je crois qu'il y a eu Sheila, Claude Barzotti, Céline Dion évidemment, Où tu iras, j'irai. La chose qu'on oublie parfois, c'est que ça n'est pas une parole amoureuse au sens romantique du mot, pasteur Marie-Pierre Courneau. Enfin, vous allez nous rappeler d'ailleurs que souvent cette formule est utilisée dans les mariages.
Mais tout à fait. Elle est souvent utilisée dans les bénédictions de mariage par les couples ou par les célébrants. Et puis, comme vous avez dit, dans la chanson, elle est généralement mise dans la bouche d'un des membres d'un couple amoureux. Et voilà. Et dans la Bible, en fait, on ne sait pas très bien. Ce qui est sûr, c'est que c'est Ruth qui la prononce, et que cette promesse, cette magnifique promesse, et qu'elle l'adresse à sa belle-mère, Naomi. Pour le reste, en fait, on ne sait pas très bien. Peut-être que Ruth et Naomi formaient toutes les deux un couple amoureux. Le texte biblique ne le précise pas. Moi, je pense que c'est parce que c'est pas l'enjeu. C'est pas l'enjeu de cette histoire, de savoir si elles étaient amoureuses l'une de l'autre ou pas. L'enjeu est complètement ailleurs.
On verra d'ailleurs que ces deux femmes parfois se mélangent dans le texte. On ne sait plus très bien qui est qui. Il y a des choses assez amusantes que vous révélerez en commentant ce texte. Alors il y a donc le « où tu iras, j'irai », mais la suite, je trouve, est d'une puissance incroyable. « Ton peuple sera mon peuple ». Ton Dieu sera mon Dieu, puis la suite encore. Comment entendez-vous ces affirmations de Ruth ?
Ruth, il me semble, est prête à aller au-delà de ses appartenances, appartenances religieuses, appartenances culturelles, pour construire sa propre identité. Et on le verra, ça va nous permettre de nous construire notre propre identité, à nous. Et ça, c'est un geste quand même d'une très très grande liberté, de se détacher de ses appartenances et construire son identité. Et ça, c'est possible aussi parce qu'il y a ce serment de fidélité à la vie, à la mort, parce que ces deux femmes, Ruth et Naomi, sont ensemble. C'est pour ça que c'est possible. C'est pour ça qu'une issue est possible, qu'elles vont pouvoir sortir de l'impasse et que cette nouvelle identité de liberté va pouvoir éclore.
On connaît peut-être aussi, alors on a parlé des femmes, il y a un homme dans cette histoire qui est important, c'est Boaz. Et pour ceux qui aiment la littérature ancienne, la poésie, il y a plusieurs poèmes qui existent autour notamment de cet homme, et il y a ce fameux poème de Victor Hugo. Et on évoque ce prénom autrement avec Victor Hugo.
Alors oui, le poème de Victor Hugo s'appelle « Boz endormi ». Et Victor Hugo a choisi la prononciation « Boz », qui est celle qui est fréquemment utilisée dans nos bibles modernes en français. Moi, pour ce carême protestant, j'ai choisi la prononciation « Boaz », qui est un peu plus proche de l'hébreu. Mais voilà, il y a beaucoup de façons de prononcer des noms propres et des prénoms. Moi, j'avais envie de garder un pied dans la langue hébraïque de l'Ancien Testament. Et peut-être aussi, c'est un début de ce décalage que je vous propose entre nos images de ce livre de Ruth et ce que nous allons réellement lire en ouvrant la Bible.
Alors, on a parlé de musique, il y a aussi beaucoup de peintures qui reprennent cette histoire de Ruth.
Oui, c'est une figure très très fréquente de la peinture, en particulier impressionniste, mais pas uniquement. On trouve des tableaux représentant l'histoire de Ruth à toutes les époques de la peinture. Il y a un des chapitres plus particulièrement, une des scènes campagnarde dans un champ de céréales qui est particulièrement représenté, qui a beaucoup inspiré manifestement les peintres.
Alors, nos conférences de carême, vos interventions pendant ces 6 dimanches sont à écouter, bien sûr, en audio, et j'invite tous les auditeurs à se brancher sur France Culture, comme on disait autrefois, à 16h, pendant les 6 dimanches de carême, jusqu'au 13 avril inclus. Mais il y aura aussi une autre possibilité de découvrir tout cela, et je pense que c'est très complémentaire, c'est de pouvoir lire aussi vos interventions, que vous allez réécrire de façon justement à ce que la lecture soit agréable, permettant aussi d'aller peut-être un peu plus loin dans certains domaines, d'ajouter certaines choses. Ruth, la pourvoyeuse de vie, c'est un livre également qui va sortir très prochainement.
Oui, aux éditions Olivetan, tout à fait, qui ne sera pas exactement le texte des conférences. On est moins contraint par la durée dans un livre qu'à la radio. Et donc, voilà, ça permettra de développer plus certains passages, d'y introduire d'autres choses que le livre biblique et probablement, justement, des poèmes.
Vous avez choisi pour couverture un champ de blé. Le blé, alors c'est de l'orge même exactement.
C'est alors, ça dans le livre de Ruth, c'est de l'orge, du blé aussi, mais l'orge a une place importante sur la couverture. Alors je pense que c'est un champ
c'est
de blé.
C'est du blé.
Et oui, le
avec
le,
de jolis coquelicots.
Avec de jolis coquelicots
qui amènent de la couleur.
Tout à fait. Le contexte agricole est quelque chose de très très important dans le livre de Ruth. Ça dit le rapport à la terre, cette terre qui à l'époque et pour nous encore aujourd'hui, est le monde de la mort, le monde des morts. Quand les gens sont morts, on les met en terre, on les enterre. Et avec ce monde de mort, il y a le monde de Dieu qui intervient. Et donc la terre, c'est le monde du divin, le monde du mystérieux, le monde des morts. Et justement, Ruth va se confronter à cette terre, à ce monde-là.
Et puis on verra Ruth aussi, plutôt dans le début du texte, aller glaner dans un champ et vous nous raconterez tout ça, vous nous expliquerez aussi le contexte qui permet de comprendre les enjeux. Une question, vous parlez de mort là, évidemment, cette héroïne de l'Ancien Testament, son histoire est utilisée avec vous pour ce carême, pour cheminer vers Pâques. De quelle façon justement mort et résurrection du Christ peuvent venir en résonance avec cette histoire de Ruth?
Ruth, cette héroïne de l'Ancien Testament, moi je crois qu'elle incarne exactement ce que Jésus viendra un peu plus tard nous annoncer en parole et en acte. Il annonce que l'alliance de Dieu nous concerne tous et toutes, sans frontières, que sa fidélité pour nous est éternelle, sans limite, gratuite, et que la façon dont nous avons, nous, de vivre cette fidélité, on doit la trouver dans autrui. Ça, ce sont vraiment les messages du livre de Ruth qui sont donc très inspirants, je trouve, pour le Christ. Et puis, le livre de Ruth, c'est aussi une histoire qui commence par la mort, qui va se terminer par la vie. Une vie qui va s'étendre à tout le monde. Une sorte de résurrection. Moi, j'ai pas peur des mots. Et c'est grâce à Ruth que la transition va pouvoir se faire, la transformation entre la mort et la vie. Et voilà. En passant, cette histoire va nous dire que parfois, il faut s'éloigner du droit chemin et des lois. Parfois, il faut prendre des chemins de traverse pour sortir des impasses. Et c'est à ce prix-là que la résurrection est possible.
Eh bien, Marie-Pierre Courneau, je vous propose d'entendre encore quelques notes de piano avec Alessandro Sgobbio et le morceau « Champ forêt ». Eh bien, merci beaucoup Marie-Pierre Courneau pour ce temps de partage ce matin, mais surtout on vous dit à tout à l'heure. Hein.
Vous serez tout à l'heure.
À 16h au micro de France Culture pour Soleil, le carême protestant. Je voudrais profiter d'ailleurs aussi de ce moment pour remercier l'équipe de la paroisse de l'Annonciation qui travaille tout au long de l'année pour préparer ces carêmes et remercier Florence Guémy en particulier qui reprend la supervision de cette équipe. Merci à eux. Et donc à tout à l'heure, Marie-Pierre, à 16h sur France Culture. Avant de se séparer, une petite info culturelle et protestante en même temps. Ce mardi 11 mars à 20h, en région parisienne, au temple de Levallois-Perret, 81 rue Anatole France, Jean-Marie Perinetti, qui était dans Soleil avec Éric Emmanuel Schmitt pendant l'un des dimanches de l'Avent, donnera son seul en scène intitulé « Bartimée, un cri dans la houle ». Alors rappelez-vous, Bartimée, n'est-ce pas le mendiant aveugle dans l'Évangile selon Marc, qui se met à crier en direction de Jésus et se fait rabrouer par la foule ? Et qui crie alors de plus belle jusqu'à ce que Jésus l'entende et l'appelle. Et là, c'est la fête. Il jette son manteau, bondit et court pour retrouver Jésus en même temps que la vue. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Bartimée a traversé les âges pour arriver jusqu'à nous, si bien qu'un beau jour, il débarque en plein temple protestant et se retrouve nez à nez avec Rémi, un jeune pasteur qui veut jeter l'éponge parce que les gens d'aujourd'hui sont trop compliqués. Et comme il n'a pas sa langue dans la poche, Bartimée prend les choses en main. Dans ce spectacle que vous imaginez avec cette petite présentation assez drôle, décapant, eh bien Jean-Marie Perinetti nous invite à un rêve de liberté et d'espérance où la foi de Bartimée prend à contre-pied la résignation ambiante et où il devient possible de rire au pied de la croix. C'est ce mardi, à 20h, au temple de Levallois-Perret. Et nous nous quittons avec les mots de celle qui sera l'héroïne de ce temps de carême sur France Culture, Ruth, « Où tu iras », chanson du groupe suisse Visa sur leur album « Plus qu'un rêve ». C'était Soleil, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Sam Bacchiast et avec Jean-Louis Deloncle à la prise de son. Émission à réécouter cette semaine sur le site protestantaupluriel.org et à tout moment sur le site de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Sur France 2 ce matin à 10h dans Présence protestante, c'est le magazine Ma Bible sur le thème Moïse donner sa langue à Dieu avec Michael de Luca, professeur de langues anciennes, Evelyne Frère, spécialiste en communication bienveillante, et Valérie Mitrani, pasteur, et aussi Joseph Gott, doctorant en communication politique. À suivre maintenant sur France Culture vos informations, suivies de Talmudic, présentées par Marc-Alain Wacknin. Et moi, je vous retrouve donc à 16h pour le carême protestant avec Marie-Pierre Courneau. Bon dimanche à chacune et chacun.